Quatrième temps de notre semaine consacrée à l'histoire de l'amour. Dans la fabrique de l'histoire, après l'amour au Moyen-Âge, c'était hier, nous partons pour le 19e et 20e siècle et approchons le crime passionnel. Quand donc est née cette notion de crime passionnel? Quand est-elle entrée dans le droit? Est-elle jamais d'ailleurs entrée dans le droit? Comment aborder une notion floue liée à la mort et à l'amour quand on est historien du droit ou historien tout court? C'est ce que nous verrons en conclusion de notre semaine consacrée à l'histoire de l'amour avec Anaïs Quien de la Fabrique de l'Histoire qui co-animera ce débat et qui l'a préparé avec nous, avec Victoria Vano, elle est historienne du droit et des institutions, ingénieure de recherche au CNRS et auteure de La paix des ménages, histoire des violences conjugale 19e, 21e siècle dans une toute nouvelle maison d'édition de sciences humaines, Anna Moza. Benoît Garneau est avec nous en duplex depuis Dijon où il enseigne car il est professeur d'histoire moderne à l'université de Bourgogne et auteur récent chez Belin de Une histoire du crime passionnel. Nous avons avec nous en studio Frédéric Chauveau, il est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers et auteur entre autres de la chaire des prétoires aux presses universitaires de Rennes et avec nous également Jean-François Tanguy, maître de conférence honoraire à Rennes 2.
Au dispensaire, il fut constaté que l'enfant avait 38,8 de fièvre. Nous sommes sortis, mais une fois dans la rue, mon mari a dit qu'il avait soif et il a voulu entrer chez un marchand de vin. Je l'ai supplié de ne rien faire, mais il a refusé. Je lui fis observer que l'enfant était malade. Il me répondit textuellement « Ne me fais pas chier ». Je suis alors partie avec mon enfant pour lui donner les soins nécessaires à la maison. Mon mari est revenu vers 7h30 et m'a demandé son album, où se trouvaient ses photographies le représentant en femme, et il est ressorti immédiatement. Puis mon mari est rentré, il était en état complet d'ivresse. En pénétrant dans la pièce, il est tombé à la renverse sur le lit. Il s'endormit, mais sans doute sous l'emprise d'un cauchemar, comme il le faisait du reste depuis quelque temps, il se remit à rugir puis à s'agiter sur son lit portant des coups de pied contre la cloison. S'étant réveillé, il s'assit sur le lit et me lança deux gifles avec le dos de la main car je m'étais couché auprès de lui. J'ai essayé vainement de l'apaiser car il était toujours en état d'ivresse et le petit criait toujours « Moi, la peur de papa !» J'ai répondu « N'aie pas peur, il fait joujou avec maman !» Enfin, au moment où penché sur l'enfant pour essayer de le protéger contre les mouvements désordonnés de mon mari, celui-ci me porta un violent coup dans le dos en s'écriant « Ça va pas recommencer ces deux vaches-là !» Et comme le petit criait, de plus en plus fort, et comme mon mari devenait de plus en plus agité, j'eus peur et prenant le revolver de mon mari qui était sur la cheminée, j'ai tiré sur lui.
Bonjour Anaïs Quien.
Bonjour.
Les auditeurs et auditrices réguliers de la Fabrique de l'Histoire se souviennent sûrement du documentaire que vous aviez réalisé et dont on a extrait ce texte autour de cette garçonne et cet assassin, c'est cela ?
Oui, le titre du documentaire exact, c'était « Nous n'irons plus au bois ». Et c'est une lecture de Cécile Bacas, de la comédienne Cécile Bacas, lecture d'un document, d'une archive, d'un mémoire rédigé par Louise Grappe, qui a donc assassiné son mari dans les années 20. Assassiné son mari pour diverses raisons, elle va être acquittée. Mais ce mémoire est rédigé à la demande de son avocat, l'avocat qui réussira justement à la faire acquitter, Maurice Garçon, pour plaider en la faveur d'un crime passionnel, d'un crime de défense, en tout cas d'un document, d'un témoignage qui veut défausser la responsabilité de cette femme qui, selon l'avocat, a été acculée à se défendre et donc à assassiner son mari.
Bonjour Victor Evano.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de La paix des ménages. Quand vous entendez un texte comme celui-ci des années 1920, qu'est-ce que cela vous inspire justement puisque vous travaillez sur les violences conjugales?
Moi qui ai travaillé pour le 19e siècle sur ces violences conjugales, on se rend compte qu'au 20e, on tient toujours le même discours, en tout cas la victime, à la base, puisqu'elle se plaint de violences conjugales, donc elle tient le même discours encore aujourd'hui au 21e siècle. Moi, ce qui m'intéresse également, là, sur ce que vous disiez, c'est que l'avocat, là on parle de l'avocat, non pas de la justice, hein, des magistrats, c'est-à-dire qu'il s'est servi du crime passionnel, de l'amour, on tue par amour pour faire, on va dire, essayer d'acquitter, et c'est ce qui s'est passé, sa cliente. Mais au fond, ça reste, on va dire, une contre-violence, puisqu'elle a essayé de se défendre. Alors, évidemment, tout le débat est autour de l'arme, parce qu'un revolver, déjà, on est dans la préméditation, il faut se procurer une arme, là, c'est plus délicat.
Frédéric Chauveau, même question, une archive comme celle-ci, qu'est-ce qu'on peut en tirer quand on est historien ?
Ben, ça fait penser tout de suite à une autre affaire qui était l'affaire Clovis-Hugues qui avait surgi en 1883. C'est une femme qui avait tué un personnage qui l'avait donc diffamé. Et au moment du procès, on a essayé de jouer sur le registre un petit peu de l'honneur, voire de l'amour bafoué. Et les comptes rendus disent que le pauvre malheureux donc, a agonisé pendant 2 jours, on l'a trépané, on l'a retourné. Voilà. Et donc d'emblée, dans les années 1880, dans les chroniques judiciaires, c'est le crime passionnel qui surgit, qui semble s'imposer. Alors, les uns et les autres disent que ça viendrait plutôt de la littérature, que c'est Alexandre Dumas fils qui aurait assuré la promotion du crime passionnel, mais c'est sans doute l'affaire Brière, sur laquelle on reviendra peut-être, qui représente le tournant et véritablement donc l'affirmation du crime passionnel sur la place publique.
Jean-François Tanguy, même question.
Oui, il s'agit d'une affaire qu'on retrouve sous des aspects différents au 19e et au 20e siècle, de manière tout à fait récurrente. Je ferai une petite réserve sur l'intégration de l'affaire telle qu'on vient de l'évoquer dans la notion de crime passionnel. Il me semble, mais on peut ne pas être d'accord, il me semble que le crime passionnel se réfère davantage aux questions qui sont liées l'amour d'un homme pour une femme, d'une femme pour un homme, et beaucoup moins qu'aux réactions de défense, aux violences conjugales liées à la violence du mari ou de la femme. Bon, là, le crime passionnel, c'est quand il y a passion, c'est-à-dire notamment quand...
quand on est débordé par sa passion.
Oui, débordé par sa passion, et qu'on va tuer ou l'objet de sa passion, ou l'autre qui faisait obstacle à sa passion.
Mais justement, là, on avait un tout petit extrait de ce mémoire, mais tout le mémoire est sur cette histoire d'amour très belle entre ces deux êtres qui finira mal. Mais finalement, ce mémoire de plusieurs dizaines de pages raconte qu'il ne s'agit pas d'un couple qui ne s'aime pas ou qui s'aime mal, mais au contraire d'un amour qui finit mal.
Benoît Garneau, vous êtes en duplex avec nous depuis Dijon, vous enseignez à l'Université de Bourgogne, et vous êtes l'auteur d'une histoire de crime passionnel, mythes et archives, chez Belin, c'était il y a 2 ans de cela. On voit bien déjà, en faisant ce petit tour de table, avant que vous preniez la parole, que cette question est une question difficile. Quand naît le crime passionnel ? Est-ce que c'est à la fin du 19e ? Est-ce que c'est auparavant ? Peut-on parler de crime passionnel pour la Grèce antique ? Peut-on en parler pour la Rome traditionnelle, la Rome classique, ou encore est-ce qu'on peut tirer cette question du crime passionnel jusqu'au 16e ou 17e siècle? Tout cela, c'est une question que vous êtes sûrement posée en tant qu'historien et auteur de ce livre sur l'histoire du crime passionnel.
Oui, tout à fait. Il y a un problème de vocabulaire et de définition. Pour commencer, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Jean-François Tanguy. Pour moi, c'est pas un crime passionnel, cette histoire. C'est un conflit conjugal. C'est pas un crime passionnel. Un crime passionnel, ça fait intervenir l'amour. Qu'on tue celui qu'on aime parce qu'il ne vous aime plus, ou bien qu'on tue celui qu'on n'aime plus, mais qui vous aime encore. Il y a les deux possibilités. Mais l'amour doit être présent pour qu'il y ait crime passionnel.
Ou qu'on tue l'amant ou la maîtresse dans un trio amoureux aussi. Voilà. C'est une possibilité.
Voilà, c'est le problème du trio. Il y en a un trop et il faut s'en débarrasser. Le problème, c'est que l'expression crime passionnel est née au début du 19e siècle sous la plume des journalistes. Mais la réalité des crimes passionnels est quelque chose qui existe depuis l'Antiquité, puisqu'on la trouve dans la littérature chez Homère et d'autres auteurs de l'Antiquité. Donc, le problème, c'est que cette définition-là, et cette existence du crime passionnel, elle n'est pas reconnue en justice. Juridiquement, il n'y a pas de crime passionnel. Mais dans le vocabulaire commun, il y a du crime passionnel. C'est d'ailleurs, on entend par crime passionnel un crime d'amour, alors que, au sens strict, l'expression crime passionnel voudrait dire un crime qui est causé par n'importe quelle passion. Et on réduit les choses à le crime d'amour.
Anaïs Kia.
Oui, peut-être pour expliquer le succès de cette expression crime passionnel, on a la sensation que ce type de crime a toujours existé. Et puis il y a une image très romantisée du crime passionnel. On a aussi le sentiment que cela peut frapper tous les sexes, toutes les classes sociales, tous les âges, toutes les époques. Et malgré son existence juridique, finalement, le crime passionnel existe très fort dans l'imagination sociale.
Benoît Garnot.
Oui. Il y a un problème de enfin, est-ce qu'on peut chiffrer, est-ce qu'on peut compter le nombre des crimes passionnels, et est-ce qu'il y a une évolution? C'est très difficile à savoir dans la mesure justement où il n'y a pas de définition juridique. Donc on a pour les temps anciens, pour l'ancien régime, on a des gens qui sont jugés, notamment des crimes conjugaux, mais on ne sait pas véritablement si ces crimes conjugaux sont des crimes passionnels ou pas. Mm-hmm. On a aussi des crimes qui ne sont pas des crimes conjugaux, qui peuvent être passionnels ou ne pas l'être. Mm-hmm. Donc on a de grosses difficultés à essayer de voir précisément de quoi il s'agit. On sait que ça existe à toutes les époques, ça c'est absolument certain. On sait pas dans quelle proportion. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est plus fréquent depuis le 19e siècle qu'auparavant, mais c'est une interprétation.
Mm-hmm. Frédéric Chauveau.
Oui, alors, au 19e siècle, c'est aussi, bien sûr, une question qui est controversée. Certains disent, notamment, je pense à l'avocat général Groupy, qui avait fait donc un livre sur la cour d'assises. Il dit les crimes passionnels n'existent pas, il n'existe que des crimes. Voilà, ça résume un petit peu. Et donc, pour lui, finalement, c'est une sorte d'habillage. Et puis, on peut aussi faire un détour par un autre personnage qui est important, qui s'appelait Bérard Desglageux, qui avait été président de la cour d'assises du département de la Seine, donc qui a siégé pendant à peu près 12 ans. Et voilà donc à peu près ce qu'il disait. Les crimes passionnels ne le sont pas dans l'immense majorité des cas. Ce qu'il prétend être le plus souvent, c'est le dépit et l'amour propre froissé qui est en jeu. Voilà, donc là, on touche du doigt, évidemment, donc, les contours de la définition du crime passionnel.
Oui, et surtout définition juridique ou non définition juridique, Victoria
Vano. Il n'y a pas de définition juridique. C'est un fait social et certainement pas un fait de droit. Et c'est là où on se trompe. Et en fait, le crime passionnel est une construction médiatique au 19e siècle. C'est ce qui a alimenté notamment la presse. Quand on voit les belles images illustrées du petit journal, c'est magnifique. On a l'affaire Cousin, on a les femmes qui vitriolent.
L'affaire Calmette.
Voilà.
Ah, ça, c'est pas vraiment un crime passionnel.
Voilà, mais on le met, en fait, et en plus, ce que disait très bien Benoît Garnot, c'est ça se joue à trois, le crime passionnel. C'est une sorte de théâtre, de pièce de théâtre qui se joue à trois. Il y a le mari, la femme, ou en tout cas l'amant, et c'est l'amour, avant tout. Là, on essayait toujours, pour les avocats, de faire jouer en avant, de mettre en avant, finalement, le crime passionnel pour défendre son client, mais le discours de Bérard Desglageux de Crupy, c'est non, ce n'est pas un fait de droit.
Anaïs Kien.
D'ailleurs, Jean-François Tanguy, dans un de vos articles, vous rappelez que le mari vengeur, en cas d'adultère, celui qui va tuer pour se venger d'un adultère, finalement est excusable. Je crois que c'est l'article 324.
L'article 326 du Code pénal, tel qu'il était rédigé. Si, 326. Lorsque le fait, enfin la rédaction, donc c'est la rédaction de autour de 1900. Hein, lorsque le, non, c'est voilà, non c'est l'article
324.
324, c'est ça, oui. 324. Le meurtre commis par l'époux ou l'épouse n'est pas excusable si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment où le meurtre a eu lieu. Néanmoins, dans le cas d'adultère prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse ainsi que sur le complice à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale est excusable. Donc c'est le fameux divorce à l'italienne, pour reprendre la française, la titre d'un film célèbre. Théoriquement, le mari qui surprend sa femme et son amant au lit peut les tuer.
Mais c'est un crime d'honneur.
Ah oui, attention, excusable ne veut pas dire qu'il est automatiquement acquitté.
Ah oui, c'est ça.
Le crime excusable entraîne un abaissement de la peine. Et donc,
sur ce point, oui. Victoria Vano, parce que tout de même, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on se dit 19e siècle, mariage bourgeois, toutes ces questions qui tournent autour, et puis vous décriviez tout à l'heure, tout compte fait, un des poncifs des scènes de théâtre, de boulevard de la deuxième moitié du 19e siècle, le mari, la femme, l'amant, par exemple. Et en l'occurrence, il y a effectivement une coïncidence temporelle et peut-être un peu plus entre ce que vient de dire Jean-François Tanguy, la création de ses pièces, ses discours sur l'amour et justement cette excuse donnée à ce qui serait théoriquement un crime passionnel.
Alors, il faut savoir que au niveau de la codification, on a érigé l'homme en chef de famille. Donc c'est pour ça que on estimait que l'adultère c'était quelque chose qui allait mettre en péril la famille. Mmh. Et au début, au moment de la rédaction du Code pénal en 1801, on avait même envisagé un conjugicide. Alors, on ne sait pas exactement les raisons pour lesquelles ce conjugicide avait été abandonné, mais une chose...
Dans les deux sens, le conjugicide?
Le conjugicide dans les deux sens, qui répondait à l'uxoricide d'ancien régime. Je tue mon mari ou je tue la femme. Et là, c'est vraiment érigé en circonstance aggravante le fait de tuer son conjoint. Donc déjà, on a une prise de conscience. Mais cette notion-là disparaît. Elle disparaît parce qu'on insère l'article 324 du code, dans le code pénal, donc l'excuse du mari qui surprendrait sa femme en flagrant délit d'adultère.
Mais seulement pour le mari.
Mais pour le mari. Oui. Ça. Mais alors, il y a eu des discussions pour savoir si la femme qui surprenait son mari en flagrant délit d'adultère avait le droit de le faire. Donc il y a eu de très longues discussions. Mais c'est vrai que l'excuse était prévue pour le mec. Parce que c'était le chef de la famille, parce que c'était la base de la société.
Benoît Garnot.
Oui, je crois qu'il faut insister encore plus sur les limites juridiques de cette excuse. Parce qu'il faut ajouter aussi que ça ne peut fonctionner que si le flagrant délit est découvert au domicile conjugal.
Ah oui.
Ce qui limite énormément les possibilités de découverte, puisqu'en général, quand on trompe son mari, si on n'est pas trop naïf, on va le faire ailleurs que le domicile conjugal. Mais donc finalement, il y a très peu de cas où on puisse véritablement appliquer cette excuse. Mais de toute façon, c'est pas une nouveauté. C'était déjà le cas au 18e, au 17e, au 16e siècle. Il y avait une possibilité de rémission du crime de ce type si il y avait flagrant délit, s'il y avait surprise, si ça se trouvait au domicile conjugal également. Mais on s'aperçoit, en regardant les archives, qu'il y a finalement très très peu de personnages, enfin d'hommes qui ont tué leur femme dans ces conditions, qui ont échappé à un châtiment. Cette excuse existe, mais elle est très rarement appliquée, contrairement à ce qu'on dit parfois.
Et néanmoins, on en trouve la trace dans certaines chansons populaires. Séverine Cassard vient de trouver dans la discothèque de Radio France un titre de 1974 de Joe Dassin, Messieurs les jurés.
Messieurs les jurés, donnez-moi 5 minutes avant de me condamner. Messieurs les jurés, vous serez peut-être un jour au banc des accusés. Est-ce que j'ai l'air d'un assassin? Voyez-vous du sang sur mes mains? Est-ce qu'on n'a plus le droit d'aimer? Messieurs les jurés, un matin de novembre, on est venu me chercher. Ma femme depuis 2 jours était partie, on l'avait retrouvée. Du côté de la fin, mon loup, j'ai failli en devenir fou. Est-ce qu'on n'a plus le droit d'aimer? Messieurs les jurés, croyez-vous qu'une vie, ça s'écrit sur du papier? Croyez-vous qu'un avocat qui ne me connaît pas peut en parler? Je n'avais rien, je n'étais rien, pour elle au moins j'étais quelqu'un. Est-ce qu'on n'a plus le droit d'aimer? Messieurs les jurés, sachez que moi aussi je suis mort à la ferme, mon loup. Il peut m'arriver n'importe quoi si vous saviez comme je m'en fous. Quand on n'a plus rien dans la vie, quand on n'en a même plus envie, on dit salut la compagnie.
Accusation traditionnelle, pourrait-on dire, ou défense traditionnelle, à savoir je suis mort en même temps que celle que j'ai tuée, d'une certaine façon, Frédéric Chauveau, qui court jusque dans ces années 70 avec ce titre de Joe Dassin, Messieurs les jurés. Alors, comment se met en place justement cette machine médiatique que nous ont décrit à la fois Benoît Garnot et Victoria Vano, c'est-à-dire cette machine médiatique du 19e siècle qui va, d'une certaine façon, être une machine à mettre en place des excuses, pourrait-on
mettre
dire.
En place, tout à fait. C'est-à-dire que pour un certain nombre de juristes, comme par exemple Maurice Garçon, qui jette un regard rétrospectif sur le 19e et sur la première moitié du 20e siècle, tout commence finalement à se mettre en place vers les années 1870-1880, et en disant que ça vient plutôt du jury parisien. Voilà, que les 12 membres du jury sont beaucoup plus indulgents en disant que c'est la contamination du théâtre, des œuvres romanesques, voire même de la musique sentimentale, et que les jurés, donc imprégnés de cette culture-là, eh bien finalement, donc, acquittent beaucoup plus donc largement.
Donc les avocats vont s'en servir.
Et donc, l'exemple, peut-être l'affaire, la première, la plus célèbre aux alentours des années 1880, c'est l'affaire de Marie Bière. Alors là, évidemment, contrairement, si je puis dire, au trio classique du crime passionnel, c'est une affaire qui se passe à deux. C'est une jeune fille qui a été donc artiste lyrique, qui a fait des tournées dans un certain nombre de théâtres, qui a un amant. Elle tombe enceinte une première fois, son amant donc l'abandonne, et puis c'est une fillette qui meurt à l'âge de 6 mois. Et elle retourne auprès de son amant, et puis finalement elle finit par lui tirer une balle de revolver, voilà, il survit. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder à ce moment-là comment, dans le cas de la cour d'assises, les uns et les autres ont échangé un certain nombre d'arguments. Alors elle-même dit que, on lui pose la question, mais pourquoi êtes-vous retournée vers votre amant? Et elle dit, mais parce que je voulais avoir un autre enfant, et toutes les mères me comprendront. Donc à ce moment-là, le sténogramme dit tonnerre d'applaudissements, donc voilà, une sorte... Et puis, à ce moment-là, son avocat, c'est Lachaud, Maître Lachaud, peut-être l'un des avocats les plus célèbres du 19e siècle, celui qui avait défendu Marie Lafarge dans un des deux procès, pas le procès principal, mais le procès annexe. Et voilà ce que dit Lachaud, alors c'est juste un extrait, parce qu'évidemment, Lachaud, vous savez, était capable de plaider jusqu'à minuit, on entendait les 12 coups de minuit sonner, et à ce moment-là, il disait, mais personne n'a condamné donc à mort quelqu'un dans cette juridiction après minuit, évidemment, c'est une fantaisie. Magorie, c'est grand n'importe quoi, mais ça marche auprès des juristes. Et donc, dans cette affaire, voici ce qu'il dit. La condamnerez-vous? Parce qu'il les regarde. Il sait bien que la décision, c'est les jurys. Il faut les regarder dans les yeux, voire éventuellement circuler devant eux. Alors, il leur dit la chose suivante. La condamnerez-vous? Non, messieurs. Vous direz qu'il y a une limite aux forces humaines. Vous direz qu'au-dessus de la vie de l'homme, il y a quelque chose de plus respectable encore, l'honneur. Et donc ça suscite des applaudissements considérables. Le jury va se retirer pour délibérer et les observateurs disent que la délibération a duré 5 minutes montre en main et c'est l'acquittement. Et donc là on a un vrai tournant sur le crime passionnel dans l'espace public et là les journaux s'en saisissent, les magistrats aussi, les avocats et puis évidemment les étudiants dans les facultés de droit.
Oui, Benoît Garneau, on a bien compris que ce crime passionnel est bien souvent une mise en forme médiatique ou une mise en forme utile aux avocats dans la pratique de leur plaidoirie. Mais justement, Frédéric Chauveau vient d'évoquer cette question du crime d'honneur que vous évoquez également dans votre ouvrage.
Oui. Derrière le crime passionnel, c'est théoriquement un crime d'amour. C'est pour ça que les avocats insistent là-dessus parce que ils pensent pouvoir émouvoir le jury plus facilement avec des arguments d'amour. Bon, on n'a pas pu résister et puis on regrette, puis on est mort en même temps que la personne qu'on a tuée. Mais en fait, derrière le crime d'amour, il y a souvent beaucoup d'autres choses. Il y a souvent au moins aussi important, sinon davantage, une notion d'honneur. On tue par honneur parce qu'on se sent vexé publiquement du fait d'avoir été trompé ou d'avoir été abandonné.
Il peut y avoir aussi des
notions d'intérêt. Il y a des crimes d'intérêt qui sont camouflés en crimes passionnels. Par exemple, si on veut toucher la dot ou les biens de son conjoint, ben on l'accuse de vous tromper et puis ensuite on le tue sous ce prétexte fallacieux qui en fait ne correspond pas à la réalité. Donc la présentation des choses par les avocats est forcément biaisée puisqu'ils jouent sur la corde amour qui va émouvoir, pense-t-il, les jurés. Et ils insistent sur le fait, je crois que c'est très important aussi, que les peines qui sont encourues par ces criminels passionnels sont des peines excessives, dans la mesure où il n'y a pas de définition spécifique du crime passionnel. Le criminel passionnel, c'est un homicide ou un assassin. Il risque par conséquent l'échafaud ou les travaux forcés.
Et alors, ça ne trompe personne de ce que disent ces avocats, puisque vous citez un extrait du journal très connu féministe de La Fronde en 1901, Benoît Garneau, qui dit à propos d'une affaire, il dit un mari déshonoré devenu ridicule ne peut cesser d'être ridicule que pour devenir tragique. Donc d'une certaine façon, que ça sert, tout le monde a compris que c'est une excuse et que c'est une excuse pour un crime.
Je pense pas que tout le monde a compris. Ce journal féministe l'a compris, mais en 1900 et quelques années, c'est une toute petite minorité. Les jurés sont issus de milieux, enfin des classes moyennes en général. Et les avocats ont l'habileté de faire passer le criminel passionnel, et on le voit très bien d'ailleurs dans la chanson qu'on a entendue, comme un individu normal qui, un jour ou l'autre, à cause de circonstances exceptionnelles, a perdu son self-control et qu'il a récupéré depuis, qui regrette ce qu'il a fait. Et n'importe qui dans le jury pourrait faire la même chose, dit-on. Donc on se met à la place du criminel, on se dit que finalement ça pourrait arriver à tout le monde. Il a tué une fois, il recommencera jamais. C'est pas la peine de l'envoyer en prison pour très longtemps ou sur l'échafaud, encore moins.
Victoria Vano.
Oui, c'est intéressant ce qui se passe dans le prétoire, parce qu'effectivement, tous les avocats font des effets de manche. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on interdira les effets de manche. La manche comme ça qui claque, ça c'était interdit. Parce que
Ça vient de ce terme-là, l'effet de manche.
L'effet de manche, oui, parce que les avocats, c'était de la grandiloquence. Il fallait émouvoir. Et effectivement, comme dit très bien Frédéric Jouvet, il fallait regarder les gens droit dans les yeux. Et ceci, d'autant plus que le président avait interdiction, le président d'Assises avait interdiction de faire le résumé pendant très longtemps. On lui avait interdit d'expliquer les raisons de l'affaire, puisqu'il fallait que les jurés jugent selon leur intime conviction, selon leur âme et conscience. Donc il fallait évidemment...
Pas de synthèse de la part de la Cour.
Voilà, pas de synthèse pendant très longtemps. On avait supprimé ce fameux résumé-là. Mais ce qui est intéressant aussi par rapport à ces crimes passionnels, c'est qu'on préférait dans le spectacle que celui qui avait tué se suicide, au moins ait commis, tenté de se suicider. Et cette facette-là était encore plus merveilleuse, parce que alors là, il a tué par amour et en plus il a essayé de se tuer en se tirant une balle dans le cœur en plus. Donc ça, c'est encore plus symbolique.
Mais on se rate, évidemment.
Et on se rate.
Jean-François Tanguy, vous expliquez bien que le crime passionnel est un des faits divers favoris du public finalement. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, alors je fais référence à votre article sur l'affaire Berthe Leclerc, mais pas seulement. Est-ce que ce n'est pas aussi ce goût du public une manière d'entrer parfois dans la cour de la grande bourgeoisie? Et de voir un petit peu les détails de cette vie bourgeoise qui, bien souvent, est close sur elle-même et ne communique peu, finalement, avec le grand public.
C'est possible. Dans l'affaire Berthe Leclerc, il s'agit effectivement de bourgeoisie, mais le crime passionnel se rencontre dans tous les milieux.
Des noms célèbres a d'autant plus de succès.
Quand il y a des noms célèbres, effectivement, le public est
friand.
Friand et passionné. L'avantage d'un tel procès, c'est de rentrer dans l'intimité de gens qu'on ne côtoie pas d'ordinaire. Tous les historiens savent à quel point les archives judiciaires sont parmi les seules qui nous permettent de rentrer très souvent dans la vie quotidienne des gens. Eh bien, le public, quand il entend des détails, parfois salaces, en principe, il y a la dignité de la cour qui l'empêche. Mais les détails sont parfois quand même extrêmement précis et le public en est friand, effectivement. Alors, je voudrais rappeler quelque chose. On en a parlé tout à l'heure. Jusqu'à 1941, c'est une loi de Vichy, mais jusqu'en 1941, les jurés délibèrent seuls. Les magistrats ne délibèrent pas avec eux. Et par conséquent, ils font ce qu'ils veulent. D'où les acquittements assez nombreux lorsqu'ils se laissent émouvoir par la situation.
Et puis surtout, ce que vous dites bien dans l'article sur l'affaire Berthe Leclerc, qui assassine l'assassinat de Jeanne Obitz,
la maîtresse de son mari.
Voilà, la maîtresse d'Albert Leclerc en 1912 à Rennes. Ce que vous dites, Jean-François Tanguy, c'est qu'en fait, ça excite l'imagination des journalistes. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut vendre du papier dans un contexte et qu'on connaît les travaux de Jean-Yves Mollier en particulier sur cette presse fin de siècle en particulier qui tire, rappelons-le, à des centaines de milliers, voire à des millions d'exemplaires pour certains des journaux de Paris, par exemple, tout compte fait, on a de la matière pour pouvoir entre, disons, compte rendu exact et imagination possible des journalistes. On parlait tout à l'heure avec Victor Yavano des gravures que l'on met en une du Petit Parisien, par exemple. Eh bien, on a là de quoi être écouté ou lu par un public très très nombreux.
Oui, tout à fait. Le crime passionnel, et on en a parlé, on l'a dit tout à l'heure déjà, est très largement une construction médiatique. Je pense qu'il est plus fréquent, effectivement, au 19e et 20e siècle, d'une part parce qu'il y a développement de la numérique de la petite et de la moyenne bourgeoisie, beaucoup plus importante qu'auparavant. D'autre part, parce qu'il y a les médias de l'époque, les journaux, les suppléments illustrés. La collection des couvertures du supplément illustré dominical du Petit Parisien ou du Petit Journal est extraordinaire. Le sang à la une, c'est ce qui attire le public. Et quand s'y ajoute la passion, l'amour, effectivement, ça ne fait que renforcer l'intérêt du public.
Anaïs Kien.
Et puis intervient vient aussi peut-être, Victoria Vano, une évaluation sociale. Quand on parlait de l'affaire Louise Grapp tout à l'heure, il est question de bon mari. C'est parce que son mari n'était plus un bon mari que finalement elle sera acquittée. On a une évolution quand même de cet ordre-là sur ce que doit être un bon mari entre la fin du 19e et ces années 20-30 du 20e siècle.
Bah, en tout cas, ça va se diffuser cette notion du bon mari parce qu'on tolère de moins en moins, en tout cas les crimes passionnels et surtout les violences conjugales. La Cour de cassation jusqu'en 1923 tapera encore du poing en disant ça suffit, les maris, il faut qu'ils arrêtent de faire leur petit Bonaparte. Ces empereurs au petit pied, c'est régulièrement rappelé par les juristes et notamment par la Cour de cassation. Donc on sent vraiment que là, ils tiennent quelque chose. Donc il faut que ces violences-là cessent.
Et ils le rappellent à qui d'ailleurs ?
Mais ils le rappellent aux magistrats et aux jurés. Mais c'est toujours délicat en fait pour le jury, et notamment en matière pénale, de s'immiscer comme ça dans ces conjugalités. Normalement, c'est pas normal pour le pénal d'intervenir dans la vie privée parce que c'est le code civil. On a prévu la séparation de corps ou le divorce pour excès, sévices et injures graves. Mais là où, depuis 1825, notamment l'arrêt Boisbeuf, la justice pénale intervient, c'est parce que il faut que on protège l'intégrité physique des corps. Il faut que on se dise voilà, ça suffit pour la tranquillité, pour la pacification des morts. Il faut qu'on intervienne. Et c'est très délicat. Mais au XXe siècle, il y aura sans cesse comme ça des rappels récurrents.
Frédéric Chauveau.
Oui, c'est bien sûr, il y a ce discours sur le bon mari, mais en même temps, c'est un discours qui se double parfois, surtout à la fin du XIXe siècle, qui se pique un petit peu de psychologie, qui essaye de s'intéresser, par exemple, à l'adultère. Et là, on a un personnage qui s'appelait donc Louis Proal, qui était président de chambre à la cour de Rion, et qui donc lui trouve 13 raisons donc pour passer donc à l'adultère, et donc l'adultère est évidemment le creuset, le matériau pour après donc aller vers le crime passionnel. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder par exemple quels sont les premiers éléments qu'il donne. Il dit que le premier critère, c'est la disproportion des âges, et le deuxième, c'est une éducation disproportionnée où la femme est appelée à vivre. Et l'enquête très récente sur les violences conjugales montre qu'effectivement il y a une sorte de déterminisme. C'est-à-dire que dans le cadre des unions ou en tout cas des cohabitations avec une différence d'âge extrêmement forte, et puis évidemment donc un niveau culturel, une femme qui serait par exemple diplômée, le conjoint qui ne l'est pas du tout, et bien le risque que cela provoque des violences conjugales est extrêmement fort. Et donc là il y a toute une série donc d'éléments qui sont donnés. Mais pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une vraie construction médiatique. Simplement, l'étude n'a pas été faite de manière complète. Il semble bien quand même, si on fait une lecture sur 2-3 années prises un petit peu de manière aléatoire, que dans le cas des crimes passionnels, ce sont plutôt donc les femmes que l'on met en avant. C'est-à-dire que ça correspond pas du tout à la statistique judiciaire, mais on trouve par exemple que les femmes qui vitriolent leur amoureux, etc., c'est beaucoup plus intéressant. Et le journal Détective, par exemple, au cours de l'entre-deux-guerres, fait toute une série sur le meurtre au revolver en disant donc ça suffit. Donc pour l'opinion publique qui prend connaissance du crime passionnel à travers la presse, c'est évidemment donc une sorte de miroir déformant. C'est une réalité qui ne correspond pas à ce qui se passe par rapport aux chiffres et à la statistique.
Anaïs.
Benoît Garneau, vous qui avez tenté de couvrir cette question du crime passionnel sur plusieurs siècles, finalement cet outil des avocats au prétoire fonctionne-t-il mieux pour les hommes ou pour les femmes ? Est-ce qu'on arrive à évaluer ce genre de choses ?
Oui, comme le disait Frédéric Chauveau à l'instant, les femmes qui commettent ce genre de crime globalement me semble bénéficier de plus d'indulgence que les hommes qui le commettent. Mais c'est très difficile à dire parce que c'est au cas par cas et chaque crime a ses propres circonstances. C'est très difficile à voir aussi sur le long terme parce qu'avant la Révolution, au pénal, il n'y a pas d'avocats qui interviennent. Donc c'est pas du tout les mêmes critères qui peuvent intervenir là-dessus. D'ailleurs, les criminels passionnels sont sans doute beaucoup plus punis avant la Révolution, sous l'Ancien Régime, parce que l'avocat n'intervenant pas au pénal ne peut pas mettre en scène devant des jurés les circonstances et modifier et obtenir une indulgence beaucoup plus importante qu'auparavant. Ainsi. Mais Jean-François Tanguy a parlé tout à l'heure du changement en 1942 quand les magistrats professionnels sont intégrés au jury, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça a changé beaucoup de choses, je crois, parce que ça permis, ça a entraîné en tout cas une beaucoup plus grande sévérité, dans la mesure où ces magistrats ont pu peser sur les décisions des jurés, et leur expliquer, et sans doute leur montrer dans quelle mesure les avocats modifiaient quelque peu la réalité.
Travestissaient la
choses.
Réalité.
Oui. Donc une plus grande lucidité de la part des jurés, et on voit très bien depuis la Seconde Guerre mondiale que les criminels passionnels sont punis beaucoup plus sévèrement qu'auparavant, et les acquittements, ça a pratiquement disparu depuis un certain temps. Déjà, il n'est plus question d'acquitter aujourd'hui un criminel passionnel. Alors c'est pas la seule raison, parce que il y a aussi l'évolution des mentalités, mais c'est quelque chose qui a joué de façon importante, je pense.
Fait avertir que tu n'étais pas loin, que tu devais venir. L'homme m'avait même dit de craindre pour ma vie. Mais je suis brave et n'ai pas voulu fuir.
Je ne menace pas. J'implore, je supplie, notre passé, Carmen, notre passé, je l'oublie. Oui, nous allons tous deux commencer.
Tu demandes l'impossible, Carmen jamais n'a menti. Son âme reste inflexible. Entraîne-toi, tout est fini.
Jamais. C'est toi, c'est moi, un extrait de Carmen dans une interprétation de Roberto Alagna et d'Angela Georgiou. Victoria Vano, on se dit tout compte fait, ces juges, ça n'est pas simple de faire ce travail vis-à-vis de ce qui est devenu un objet médiatique et extrêmement connu dans la société du 19e ou du 20e siècle, puisqu'il s'agit de rappeler le droit, et que ce droit dit ce crime passionnel non seulement n'existe pas en droit, mais même n'a pas droit de cité à l'intérieur du prétoire. Et pourtant, il y a l'intérieur du prétoire, et puis il y a la société qui est tout autour.
Alors, avant d'arriver dans le prétoire, il y a toute la phase d'instruction. Donc tout le travail préparatoire, on va dire, des débats est effectué dans le secret du cabinet du juge d'instruction. Et c'est une sorte de répétition à l'écrit de ce qui va se jouer à l'oral dans le prétoire. Donc les magistrats ont bien conscience de toute la difficulté. Eux-mêmes sont humains, ce sont des hommes, ils sont sensibles. Et c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un petit dérapage dans un acte d'accusation qui est souvent le texte introductif au moment des débats. Ou là où, à la place de la partialité, enfin de l'impartialité, on a de la partialité, on a de la volubilité. Alors que
de l'empathie.
Voilà, de l'empathie, et ça reste toujours très très difficile. Et c'est pour ça aussi, parce qu'il n'y a peut-être plus la présence du président au moment des délibérations à partir de la fin du 19e siècle, parce que justement, on sait très bien qu'ils imposaient un peu leur point de vue, mais on a quand même la lecture de l'acte d'accusation qui est parfois très très long, parce que c'est écrit à la main, et c'est comme un roman en fait, et les jurés, et le public d'ailleurs écoute ça, voilà. Et c'est là où c'est un petit peu pervers, c'est-à-dire que parfois, il y a des débordements, on sent qu'il y a de la subjectivité, alors que normalement, le magistrat doit rester objectif à tout instant.
Anaïs Kier.
Il y a quand même un élément, Benoît Garneau, qui va aider à penser ce passage à l'acte, ce crime passionnel, c'est la question de la préméditation, de faire la preuve, de savoir si ce crime ressort du mystère de l'émotion d'un moment ou a été préparé par celui qui tue.
Oui, les avocats, en général, récusent cette préméditation, ils disent que c'est un acte spontané, mais quand on regarde les dossiers de près, on s'aperçoit que dans la très grande majorité des cas, très grande, au moins 80% sans doute davantage, il y a en fait préméditation. Et souvent même des mises en scène pour essayer de montrer qu'il n'y a pas eu préméditation. Et c'est une constante, hein. On trouve ça, je reviens souvent sur l'Ancien Régime, mais on trouve ça aussi sous l'Ancien Régime. On voit tout à fait, par exemple, des hommes qui savent qu'ils sont trompés, qui par conséquent annoncent un voyage, quittent la maison et puis ils reviennent subrepticement pendant la nuit. Ils trouvent leur femme avec son amant et ils tuent les deux personnes aussitôt. Donc, et en fait, il y a une apparence de spontanéité, mais tout ça a été prémédité. C'est vrai au XVIe siècle, c'est vrai au XIXe siècle, c'est vrai au XXe siècle. D'ailleurs, le fait d'avoir des armes, on parlait tout à l'heure du pistolet dans la première affaire, montre aussi une préméditation. Le jeu, en quelque sorte, c'est pour l'avocat d'essayer de démontrer qu'il n'y a pas eu préméditation, ouais. Alors que dans l'immense majorité des cas, c'est ce qui s'est passé.
Jean-François Tanguy, et puis ensuite on aura la parole à Frédéric Chauve.
Oui, la préméditation, elle existe assez souvent, et ça n'entraîne pas forcément la condamnation. Bon, dans l'affaire Caillot-Calmette, qui pour moi est un crime, je pense que c'est un crime passionnel, elle tue par amour pour Caillot, Henriette.
Et pour défendre son honneur,
elle tue le directeur du Figaro parce que le Figaro développe une campagne diffamatoire à l'égard de son mari, le ministre Joseph Caillot. Bon, il y a préméditation évidente. Elle est allée acheter un revolver chez Gaston Renette, elle s'entraînait à tirer, donc elle voulait tuer Calmette, elle l'a tué. Mais elle est acquittée. Pourtant, elle est acquittée. La préméditation. Il me semble que dans de nombreux cas, les jurys transcendent justement l'aspect préméditation. Pour eux, l'amour, le crime d'amour, ma foi, est plus important que la préméditation. C'est la passion qui domine.
Je voudrais revenir.
Tout à l'heure, on a effectivement, je crois que c'est Benoît Garneau qui l'a souligné, mais la passion, on parle du crime passionnel parce que vous allez consacrer votre semaine à l'histoire de l'amour, mais la passion, c'est pas forcément l'amour. Il y a la haine politique, c'est une passion qui peut amener à tuer.
Frédéric Chauveau.
Voilà. Dans le cas de la préméditation, d'abord les juristes à la fin du 19e siècle font plus la distinction entre préméditation et intention. Parce que les deux sont pas forcément équivalents. Et
il y a pas dans le même degré d'organisation.
Voilà, on n'est pas dans le même degré. Et puis il y a un type de crime qui pose problème, c'est la question de l'empoisonnement. L'empoisonnement, si évidemment donc l'autre.
On parlera pas de Marie-Bella.
voilà. Mais d'autres cas donc d'empoisonnement, donc là évidemment donc l'arsenic se trouve à peu près donc partout à libre disposition pour se débarrasser des nuisibles. Mais si pendant deux mois par exemple on essaye d'empoisonner à l'arsenic son conjoint, c'est difficile à ce moment-là donc de plaider la préméditation. Maurice Garçon le disait aussi à sa manière. Il disait alors à peu près quelque chose comme ça. Il disait le crime passionnel type est l'épilogue d'une longue souffrance et dans la plupart des cas donc les jurés donc laissent de côté la préméditation. Voilà, mais c'est un vrai problème dans les prétoires.
Victoria Vanneau.
Alors sur la préméditation, c'est particulier puisque pour toute infraction, il y a un élément moral et un élément matériel. Alors pour l'élément matériel, c'est assez clair, c'est le corps, mais l'élément moral, c'est toujours plus difficile. Donc effectivement, Frédéric Chauveau évoquait la différence entre préméditation et intention. C'est assez ténu. La préméditation, généralement, on l'a repérée par l'achat d'armes, par le test d'armes d'ailleurs, l'achat de poison, etc. En revanche, en matière de crime d'empoisonnement, on ne réfléchissait pas à la préméditation parce qu'il était inclus dans l'empoisonnement même. Donc c'était plus délicat. Mais sur la préméditation, ce qui se passait au moment des débats, c'est-à-dire qu'on assistait à une requalification, presque une disqualification de l'infraction, parce qu'il s'agissait effectivement de trouver des circonstances atténuantes.
Victoria Vanneau, est-ce qu'il y a un regard de genre sur le crime passionnel? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait relire cette histoire du crime passionnel avec d'autres lunettes, qui seraient les lunettes de l'histoire du genre, par exemple?
Oui, on pourrait lire. Ça a été fait d'ailleurs. Effectivement, ça a été fait, mais souvent un peu mal, parce qu'on a une mauvaise définition, une mauvaise approche de ce que les études de genre en France. Donc, c'est pas simplement tenir compte de la cause des femmes et des femmes victimes, etc.
Non, mais il y a peut-être une question sur l'usage du droit par les femmes et par les hommes.
Alors, l'usage du droit, le droit est très attentif à ça. Il ne distingue pas selon la qualité de la victime et des liens qui unissent l'agresseur et la victime. Et
ça, le droit, non, mais
le droit.
Mais les usagers
du
droit.
Alors, après, les usagers du droit, c'est autre chose. Moi, je parle en tant que juriste, historienne du droit. Tout ce que je sais, c'est que les magistrats ont veillé à ce qu'il n'y ait pas de distinction.
Mm-hmm. Frédéric Chauveau.
Juste une remarque, parce que c'est vrai que c'est très difficile de faire des statistiques, mais globalement, les principales victimes des crimes passionnels, ce sont quand même des femmes. Et donc, quand aujourd'hui, une notion très actuelle, controversée aussi, celle de féminicide, donc s'emparer du corps des femmes, femmes, parce que ce sont des femmes. Donc dans le cadre du crime passionnel, on est exactement dans cette perspective-là. Donc effectivement, on peut faire une lecture de genre par rapport donc à cette disposition, l'appropriation du corps. Et il y a un autre élément que l'on pourrait aussi souligner, qui est difficile aussi donc à examiner, à étudier, si je puis dire sereinement, c'est la question donc du double suicide dans le cadre du crime passionnel. L'amour est impossible, on peut pas se réunir, on va se suicider. Et quand on regarde à ce moment-là qui sont les principales victimes, ce sont en général plutôt des femmes. Les hommes ont éventuellement exécuté leur conjointe, ont voulu retourner là, et ils se sont ratés, pas de chance.
Voilà. Ému, voilà. De trop ému.
Anaïs Quien.
Oui, de ce point de vue d'une grille de lecture à partir du genre, Benoît Garnaud, vous avez analysé la question de passage à l'acte dans ces questions de crimes passionnels. Est-ce que cette notion de féminicide intervient au premier lieu dans votre analyse?
Là, pour une fois, je vais pas être d'accord avec mon ami Frédéric Chauveau. Je pense pas que cette notion de féminicide ou de fémicide, qu'on dit aussi parfois, c'est un anglicisme, s'applique véritablement au crime passionnel. Parce que le nombre de femmes, la proportion des femmes parmi les criminels passionnels est beaucoup plus élevée que la proportion des femmes en moyenne parmi l'ensemble des criminels. Enfin, tout crime confondu, on arrive entre 25 et 30%. Alors que d'habitude, on est autour de 8 à 12%, tout simplement. Donc, je crois pas, justement, que le schéma de la femme victime de l'homme, qui par conséquent, soit est tuée, soit tue pour se défendre, soit vraiment applicable dans ce schéma du crime passionnel.
Et puis, il faut bien dire aussi que aujourd'hui, les historiennes s'interrogent sur la question de la violence féminine et prennent tout un tas de tout un tas de travaux sur cette question de la violence féminine, Victoria Vano, et qu'il faut la reprendre en compte de façon nouvelle et peut-être relire toutes les archives qu'on avait mal lues en prenant cette question en compte.
Mais parce qu'on a longtemps nié la possibilité qu'une femme puisse commettre des violences, mais ça servait le discours des féministes dans les années 1970, parce qu'il fallait évidemment, moi je l'ai vu, il fallait lutter contre les violences conjugales, donc il fallait victimiser la femme et pénaliser l'homme. C'était logique pour asseoir le discours. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça, cette lecture-là, elle est un petit peu dépassée, parce que ça veut dire nier la criminalité des femmes. Donc, dès qu'on a un infanticide, on l'a vu dans l'affaire Courgeot, on s'émeut, mais vite, on va lui trouver des excuses et c'est nier tout simplement toute cette souffrance qu'elles peuvent commettre, et notamment aussi les maris battus.
Oui, et c'est nier effectivement ce qu'on appelle l'agency aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité des acteurs de la société à prendre leur destin en main d'une certaine façon. Et donc, on relie cette question de façon différente aujourd'hui. C'est cela, Frédéric Chauveau?
Oui, mais juste à relativiser, parce que si je me souviens bien, en 2012, il devait y avoir à peu près, je crois, quelque chose comme 148 femmes qui avaient donc succombé en violence conjugale sous les coups de leur conjoint, et en comparaison, il devait y avoir 26 hommes. Voilà, ça donne quand même les proportions. Voilà. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de nier évidemment la violence, mais il faut aussi replacer les proportions à leur juste place.
Mais c'est les statistiques, vous dites, on a toujours du mal à avoir les statistiques. Si on se focalise sur les statistiques, combien de femmes ont été battues, évidemment, on va trouver effectivement un nombre important. En revanche, si on veut faire les statistiques des maris battus, vu que c'est marginal et que ce n'est pas logique, parce qu'on part du principe que l'homme il peut se défendre, hein, c'est un peu construit comme ça, évidemment, il n'y en a pas.
Anaïs Quien.
Ce qui est très troublant avec ces sujets, Victoria Vano, c'est que finalement, on se retrouve devant un sujet qui amène le droit à évaluer la qualité d'un amour.
Oui, c'est ce que j'aimais souvent, notamment à la fin de mon livre. Mais moi, je veux simplement qu'il m'aime. Mais on peut pas condamner à l'amour. Et c'est vrai, c'est ce désespoir-là. Et surtout quand ça vient devant le juge pénal, parce que c'est pas son rôle au juge pénal de forcer les gens à s'aimer et puis d'intervenir comme ça.
Jean-François Tanguy.
Oui, il y a un point qu'on n'a pas, il me semble, évoqué du tout.
Allez-y.
C'est la différence des tempéraments nationaux et du droit, et des droits, bien sûr, entre
États. Bien sûr.
En France, je peux me tromper, mais je ne crois pas qu'au XIXe siècle, dans la première moitié du XXe, on ait, qui que ça soit, tant que la peine de mort a existé, soit et périsse sur l'échafaud pour un crime qui était un crime passionnel. En Angleterre, on a pendu des gens pour crimes passionnels, Et bon, il y a des affaires célèbres, notamment en 1953, je crois, l'affaire Utelis, qui a été pendue parce qu'elle avait tué son amant. C'est impensable en France. Donc, il y a une forme d'indulgence, je pense. Alors, tempérament français, c'est une expression extrêmement floue.
Peut-être, une tradition juridique ou politique ou sociale. Vous êtes d'accord, Victoria Vano?
Ce que disait très bien Bonnegarde tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on avance dans le temps, dans les siècles, plus on va condamner et on va être moins indulgent vis-à-vis des crimes passionnels. Je pense que c'est plus lié à ça, parce que vous évoquez l'affaire 1953, il y a de soi que...
Frédéric Chauveau, sur ce point, y a-t-il une comparaison à faire internationale ou au moins européenne autour de cette question de la tolérance ou non des sociétés vis-à-vis ce type de crime?
Là, j'en suis persuadé, oui, il n'y aurait pas. Parce que si on fait, ne serait-ce pour le très contemporain, parce que là, on a des chiffres, alors pas des déclarations de victimes, mais tout simplement de ceux qui sont passés de vie à trépas. Donc là, c'est un constat objectif. Donc là, il y a des différences nationales. Après, il faut pouvoir les expliquer. On ne peut pas se réfugier derrière la théorie des tempéraments en disant que dans le Sud, on est, dans le Nord, on est davantage réservé. Bon, ça ne fonctionne pas. Mais il y a de vraies différences.
C'est comme ça qu'on le voyait, d'ailleurs.
Benoît Garneau.
Il faut aussi replacer l'indulgence relative envers le crime passionnel dans un cadre plus général, dans la mesure où d'autres crimes aussi bénéficient de cette relative indulgence. Quand on acquitte un certain nombre de criminels passionnels, on acquitte aussi, et en beaucoup plus grand nombre, des femmes infanticides, qui risquent aussi l'échafaud ou les travaux forcés à perpétuité, ce que le jury considère comme excessif. Donc il y a un problème de droit, un problème du fait que le code pénal prévoyait des peines extrêmement fortes pour un certain nombre de crimes qui n'étaient pas considérés par l'opinion publique comme aussi graves que la loi les considérait.
Merci.
Alors, pourquoi ça en effet, il y a des différences entre les différents pays et Frédéric Chauveau a raison de dire que le problème est extrêmement compliqué, que ça ne tient pas simplement des questions de tempérament, qu'il y a autre chose par derrière, mais là c'est un autre débat.
Merci Benoît Garneau.
Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Je tue celui qui fait un pas, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous vos projecteurs et baissez ces fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans aide.
Évidemment, le Requiem pour un fou, 1976, de Johnny Hallyday, pour terminer, baissez vos fusils braqués, en l'occurrence, pour terminer cette émission consacrée aux crimes passionnels. Rappelons que votre article dans les Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, Jean-François Tanguy, est accessible en ligne, un crime passionnel dans la bourgeoisie provinciale à la belle époque, l'affaire Berthe Leclerc, qu'on peut lire chez la nouvelle maison d'édition de sciences humaines, Anna Moza, La paix des ménages. C'est le premier livre de cette nouvelle maison d'édition, Histoire des violences conjugales, sous votre signature, Victoria Garneau.
Non, que liste
Vano, pourquoi Garneau?
Oui, j'ai mélangé.
Je disais en même temps. Benoît Garneau, Victoria Vano. Benoît Garneau, une histoire du crime passionnel, Mythe et Archives, c'est chez Belin. Et pour votre part, Frédéric Chauveau, on peut citer La chaire des prétoires aux presses universitaires de Rennes. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marcet. Lucas Vaillant était avec nous à la technique et Cyril Cassara à la réalisation. On se retrouvera demain pour évoquer le festival, en l'occurrence le festival de
beaucoup
Pessac.
Beaucoup de cinéma demain, ouais, le festival de Pessac, le cinéma du réel et un colloque à Paris 8 sur le cinéma de cette mythique université de Vincennes.
Merci Anaïs Quien et à demain.